Il y a forcément des témoignages qui marquent. On va pas se mentir, on est humain.
On voit des vitres soufflées, on voit des cailloux par terre. Enfin, on voit les résultats de cette frappe. Et plus on s'approche, et plus on voit les conséquences.
C'est l'essentiel de notre métier, c'est de montrer des gens qui s'embrassent.
Raconter, témoigner et comprendre la guerre. Entendre les bombes, les victimes et les déplacés. Les reporters de BFM envoyés aux Proches et au Moyen-Orient pour couvrir la guerre en Iran nous racontent, dans ce deuxième épisode, le quotidien à la frontière iranienne et sous les bombes au Liban et en Israël. Les témoignages qui les ont marqués aussi depuis le 28 février. Depuis le début de l'attaque organisée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, une dizaine d'équipes de reporters montrent et témoignent toute la journée du conflit. Vous écoutez le deuxième épisode du service reportage consacré au début de la guerre en Iran. Alors vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, écouter le premier épisode, le précédent épisode, pour comprendre comment la rédaction s'est organisée, s'est déployée partout et découvrir les coulisses des reportages que vous voyez à la télévision et sur les réseaux sociaux. Bienvenue au service reportage de BFM.
On découvre en fait ce qui est en train de se passer. La situation est tellement mouvante que sur le coup, quand on arrive le lundi soir, on sait pas trop finalement ce qu'on va voir et à quoi on va être témoin. Je m'appelle Jeanne Daudet, je suis reporter à BFM TV, je suis à Beyrouth au Liban. On est dans un hôtel en fait où il y a un toit au-dessus, un toit terrasse, et donc sur lequel on peut se positionner pour avoir une vue sur les quartiers sud, les quartiers qui sont visés ici dans la capitale libanaise par l'armée israélienne. Et donc on monte sur ce toit les premiers matins, parce que dès le mardi matin en fait on fait des duplex en matinale très tôt. Et on voit tout de suite les frappes, cette banlieue sud qui est vraiment très régulièrement sous un épais panache de fumée qui sont consécutifs aux différentes frappes israéliennes dans la banlieue sud. Et c'est les premières images que l'on voit, c'est vraiment ces quartiers sud avant réellement d'entrer dans les rues de Beyrouth, de marcher à travers les rues de Beyrouth. Et c'est là qu'on se rend compte des conséquences finalement de la guerre, c'est-à-dire des déplacés. Et ces centaines de personnes qu'on peut croiser dans les rues ici à Beyrouth qui sont déplacées, réfugiées et qui savent pas forcément pour beaucoup où aller, où dormir et qui dorment le long des trottoirs, le long de la corniche. On a eu place des Martyrs qui est une place célèbre ici à Beyrouth.
J'ai découvert mon immeuble par terre, effondré. Je n'avais pas été prévenu qu'ils avaient lancé une alerte. Je suis donc venu ici dans la région au milieu de la nuit. Je suis parti sans habits et sans argent, sans rien. Ça fait 5 jours que je suis là, tantôt dans le froid, tantôt sous la pluie et parfois en pleine chaleur. Nous dormons à même le sol et nos os se brisent.
Il y a forcément des témoignages qui marquent. On va pas se mentir, on est humain, on est journaliste, mais on est humain avant tout. On a chacun notre vécu et notre histoire personnelle. Moi, c'est beaucoup les enfants qui me marquent énormément ici. Il y a beaucoup d'enfants à la rue qui n'ont souvent plus rien. Et c'est compliqué, c'est des images qui sont difficiles, c'est des témoignages de parents qui sont difficiles. Je me souviens de cette maman qui m'expliquait, je la rencontre, elle est par terre avec ses enfants autour d'elle, elle vient de se réveiller, on est place des Martyrs. Et je me souviens très bien, j'arrive, je vois qu'il y a un de ses enfants qui est sous la couverture, je distingue pas son visage. Et elle me dit, voilà, là mon enfant il a de la fièvre, je viens de passer toute la nuit place des Martyrs. Mon enfant a de la fièvre, j'ai rien, j'ai pas un médicament, j'ai rien pour le soigner, il faut m'aider. Et ce témoignage, il est crucial, il est important, il marque beaucoup sur ce que ça veut dire, en fait, de ce qui est en train de se passer pour eux. Mais c'est vrai qu'on peut pas être insensible à ces dizaines d'enfants que l'on voit à ce moment-là autour de cette femme de différentes familles, mais qui en même temps jouent ensemble. Il y a des scènes de vie quotidienne, au final, avec ces enfants qui gardent une forme d'innocence, malgré ce qui est en train de se passer. Mais des témoignages comme ça, on en a eu tellement. Cette femme enceinte de 9 mois qui m'explique qu'elle a fui à pied les quartiers sud de Beyrouth avec ses enfants, elle avait déjà 3 enfants, qu'elle est arrivée là épuisée dans un abri, elle a trouvé refuge dans une église et elle me dit qu'elle n'a rien, elle est partie sans vêtements et qu'elle n'a pas de vêtements pour elle, pour ses enfants, pour le bébé à naître et qu'elle ne sait même pas où elle va accoucher, elle n'a même pas réfléchi à une clinique, mais elle est enceinte de 9 mois, l'accouchement il est imminent et elle ne sait absolument pas ce qu'elle va pouvoir faire.
Quand on est arrivé à Amman avec Philippine, on s'est dit à peu près la même chose. On s'est dit, c'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir une alarme dans la tête. Même quand il n'y en a pas, en fait, notre cerveau est tellement conditionné à ce que ça arrive à un moment donné.
Gorseiri est reporter. Il a passé les 10 premiers jours de guerre à Tel Aviv. Là, quand je l'appelle pour enregistrer ce podcast, il est à la fin de sa mission. Il rentre en France. Il est exactement en Jordanie, à Amman.
Du coup, on a choisi un hôtel à Tel Aviv qui était en plein centre, qui était pas très loin de la mer, mais pas non plus à côté, pas très loin de l'hypercentre, pas très loin non plus du quartier général de l'armée, pas très loin des routes d'accès qui mènent soit au sud en direction de la bande de Gaza, soit au nord en direction du Liban. Et pas très loin de Jérusalem. En fait, voilà. On est basé à Tel Aviv parce qu'à Tel Aviv, c'est à équidistance de Jérusalem, de la bande de Gaza, et un peu plus loin quand même, mais assez facile d'accès pour aller au Liban, pour aller au nord, pour aller à la frontière avec le Liban. Et donc la première frappe iranienne qui transperce le système de défense anti-aérien israélien est en plein cœur de Tel Aviv et à 10 minutes à pied de chez nous, de notre hôtel. Donc on se presse d'y aller une fois que les alertes sont terminées parce qu'on reçoit aussi une alerte. Et là, on découvre l'ampleur des dégâts puisqu'effectivement, il y a eu un missile balistique iranien qui a atterri au milieu de la chaussée dans un quartier résidentiel qui a démoli quasiment aux trois quarts un immeuble avec des gens, enfin avec des gens qui vivaient à l'intérieur. Ça a soufflé les vitres et fait des dégâts matériels sur, je pense, au moins 500 mètres à la ronde, facile. On voit des vitres souffler, on voit des cailloux par terre, enfin on voit les résultats de cette frappe. Et plus on s'approche, et plus on voit les conséquences. Et là, alors là, il y a des pompiers, il y a la police, il y a les services de secours, il y a évidemment tous les voisins, tout le voisinage qui est dehors, beaucoup de médias aussi. Il y a eu un mort. En fait, c'était une dame d'origine philippine en plus. C'était une aide-soignante qui aidait une femme israélienne à la retraite et qui n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri. Mais ça, on découvre après, évidemment. Mais on voit, en fait, les secours avec des brancards et notamment un brancard. On l'aperçoit. On nous dit que c'est quelqu'un qui est blessé très grièvement et on apprendra un peu plus tard, le lendemain, que cette personne est décédée. Il y a eu un mort et plusieurs dizaines de blessés. Je crois qu'il y a eu plusieurs centaines de personnes relogées.
On commence à se dire, bah tiens, peut-être que beaucoup de réfugiés vont arriver, vont quitter la guerre et qu'on pourra leur tendre le micro et ça fera, pour le coup, en termes de reportage, des choses intéressantes. Sauf qu'ils étaient rares, quoi.
À la frontière iranienne, côté Arménie, Angel Wata et avec Baptiste Keita, là, ils sont aussi en train de rentrer de mission, ils sont à l'aéroport. Ils ont passé 10 jours tentant de recueillir les témoignages des Iraniens qui quittent l'Iran.
On a dû avoir, une vingtaine de contacts, je dis contacts sciemment, avec des Iraniens qui passaient ce poste frontière. Sur cette vingtaine de contacts, il y avait une quinzaine de refus en moyenne, hein. C'est évidemment pas des vraies statistiques que je donne, c'est pour donner un ordre d'idée, mais une quinzaine de refus immédiats. On s'approchait à peine, c'était je me parlais pas, je peux pas, quoi. Sous-entendu, je ne peux pas. Vous doutez bien qu'il faut pas parler quand on est iranien, qu'on quitte le pays dans cette situation-là, qui est une incertitude politique. Franchement, assez dingue, quoi. Ils savent pas quel sera le régime dans 2 mois. Ils savent pas si d'une guerre où manifestement les cibles sont stratégiques et militaires, on va passer à une guerre de terrain avec notamment la question autour du Kurdistan des Iraniens kurdes. La prise de parole est pas une bonne idée dans l'esprit de la plupart des gens qui passent ce poste frontière. Donc quand on va les voir, généralement, ils refusent. Ça, c'est l'immense majorité des gens. Et puis, une fois de temps en temps, à de très rares occasions, en 8 jours, je crois que c'est arrivé 5-6 fois, on a pu effectivement lever la caméra et faire sereinement un témoignage d'une personne qui venait de quitter le pays en guerre. Seulement des réfugiés iraniens. Il y avait aussi juste des voyageurs iraniens qui étaient obligés de passer par ce poste frontière. Et donc, à chaque fois, ça a donné des témoignages quand même gratifiants parce qu'on se disait, tiens, on n'entend pas beaucoup la société iranienne en ce moment. On entend beaucoup la société israélienne. On peut entendre les Libanais. En revanche, parmi les gens impliqués dans ce conflit et les sociétés qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent de ce conflit, les Iraniens, on les entend presque pas. Donc on a eu quelques témoignages assez forts, notamment montrant l'opposition profonde à ce que font les Américains et les Israéliens via leurs bombardements, mais toujours aussi avec un non-dit autour du régime. Les gens ne souhaitent pas trop s'exprimer autour du régime.
Et donc même certains étaient un peu paranoïaques en nous demandant « Mais est-ce que votre caméra est allumée ?» Enfin voilà, on sentait qu'il y avait quand même pas mal de méfiance parce qu'on avait une caméra et parce qu'on...
On peut raconter la première séquence qu'on a tournée. On est arrivé, Il y avait un monsieur qui venait de Manchester. Il est arrivé de Manchester où il était installé là-bas depuis 2-3 ans, je crois. Il embrasse sa famille, donc ce sont des séquences fortes. Ce sont des séquences d'émotion, parce que c'est l'essentiel dans un conflit, c'est que les gens ont peur et que quand ils se retrouvent, ils s'embrassent. Et ça, ce sont des choses, ça peut paraître un peu simple, mais en réalité, c'est l'essentiel de notre métier. C'est de montrer des gens qui s'embrassent et qui reviennent à quelque chose de profondément naturel. On peut parler de géopolitique pendant des heures. La réalité, pour décrire l'humanité et ce qu'elle ressent, c'est quand même de voir des gens qui s'embrassent.
Je vis à Manchester et je suis venu ici pour récupérer ma famille. Aller à Yerevan et y rester pour la sécurité.
Donc là, il nous décrit vraiment le mal-être de la société iranienne. Il retrouve sa femme et ses deux filles. Il va se mettre à l'abri avec elle à Manchester, donc en Angleterre. Et après, on fait ce qu'on doit faire habituellement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini d'avoir le contenu en termes d'images et d'interview, on demande les prénoms pour pouvoir identifier ces personnes-là, mais pas comme des policiers, évidemment, juste pour que le téléspectateur s'identifie et qu'on ait au moins la possibilité de mettre son prénom. Après, pour être sincère, il y a des moments où on anonymise, des moments où si on nous donne un prénom à côté de la vérité, on va pas aller le vérifier. C'est pas très grave, c'est juste pour avoir un prénom. Et quand je demande le prénom, je le demande à sa fille et le monsieur, en l'occurrence, il s'énerve. Il s'énerve et, ouais, et il me regarde et dit « Why you take my information ?»« Pourquoi vous prenez mes informations ?» Parce qu'il est sous tension. Donc ça, je crois que c'est intéressant à raconter. La tension de la société iranienne, elle va jusque-là. On parle, il y a de l'émotion, mais quand même, ils restent sur leur garde. Voilà.
Est-ce que vous étiez surpris qu'il y ait si peu de monde aussi à cette frontière ?
Oui.
Franchement, oui, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde qui cherche à fuir l'Iran. On n'a pas eu les images auxquelles on aurait pu s'attendre d'exode massif du pays qui fuit un pays sous les bombes.
C'était un travail qui consistait à aller très très régulièrement se renseigner avec tact, en se battant un peu avec les chauffeurs de taxi qui eux sautaient tout de suite sur les gens qui passaient la frontière. On essayait, généralement ça ne mordait pas, et ensuite on repartait. On faisait des directs évidemment aussi très régulier sur l'antenne de BFM TV. Au bout d'un moment, on avait l'impression de beaucoup se répéter, évidemment. Donc oui, c'était un peu fastidieux. Oui, il faisait froid. Ouais, maintenant, évidemment, dans cette actualité, tu te doutes bien qu'on va te dire qu'on n'est pas les plus à plaindre, bien sûr. Être un bon journaliste, être un bon reporter, c'est précisément dire, attention, ça n'existe pas comme on pourrait le fantasmer depuis Paris. Donc c'est toujours pareil. On envoie des messages au bocal, ce qu'on appelle le bocal chez nous. On envoie des messages à nos chefs qui sont à Paris et qui imaginaient peut-être cette situation d'exode massif, etc. Notre responsabilité en tant que journaliste, c'est presque principalement de décrire la réalité aussi à nos chefs pour qu'ensuite ils prennent les bonnes décisions éditoriales.
On a vu des Iraniens aussi qui rentraient en Iran. Et nous, on leur posait la question, mais vous n'avez pas peur de rentrer? Enfin voilà, en leur disant, parce que vous voyez les images comme nous, vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de votre famille, de vos familles, on imagine, parce que les communications sont impossibles. Et beaucoup étaient confiants en l'avenir et beaucoup disaient, non, mais on est un pays, on est fort, on est fier, on rentre chez nous. On rentre dans notre pays, quoi. On va retrouver nos familles. De toute façon, il ne s'agit pas de rester à l'extérieur de l'Iran. Donc, il y avait comme, enfin, moi, j'ai ressenti une fierté de ce peuple. Alors, peut-être que aussi, il faut voir ça à travers le prisme de ces Iraniens qui rentrent en Iran. Donc, alors, ça allait être difficile pour eux de nous dire, je rentre pour faire tomber le régime. Hein. Donc, il faut prendre ça aussi en compte. Mais quand même, certains nous ont dit. Qu'ils rentraient chez eux et qu'ils étaient, étaient forts. Voilà, on est fort, on est fier, on rentre chez nous, c'est notre pays. Il ne s'agit pas de rester à l'écart de ce qui va se jouer maintenant, quoi.
Et là, je vais aller voir Efrat. Efrat, elle habite.
Igor, quand tu es à Tel Aviv, en Israël, et qu'il y a des bombardements, est-ce que c'est difficile de recueillir les témoignages des victimes?
You lived here.
Oui, ça, en fait, c'était. Un témoignage assez fort, enfin même très fort, parce que il représente à mes yeux le sentiment des Israéliens qu'on a rencontré par hasard sur le lieu d'un impact de missiles, de sous-munitions précisément, Et cette femme habitait juste à côté, et donc on la croise par hasard dans la rue.
Je suis surtout sous le choc. C'est une toute petite rue de Tel Aviv. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. Je vais pleurer.
Et donc très vite, elle me raconte qu'elle a entendu un bruit sourd, les murs qui vibrent. Et elle me dit, ben, en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir retourner chez moi. Et c'est comme ça qu'on vit depuis maintenant une semaine, voire même davantage, parce qu'en réalité, Israël est un pays en guerre depuis 2 ans et demi, depuis le 7 octobre.
Une détonation très, très forte. Je savais que c'était proche, je ne pensais pas que c'était si près, mais c'était très fort et très terrifiant. J'ai vécu tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, et même avec l'Iran auparavant. Mais ça, je n'avais jamais rien vécu de pareil. C'est trop près de chez nous, c'est vraiment effrayant. On attend de savoir si on peut rester ici, si on doit partir, et on ne sait pas où on va passer la nuit. On ne sait pas encore.
Et là, c'est là qu'elle me dit qu'elle est enceinte en plus, et que voilà, ses priorités, c'est de vivre en réalité et de pouvoir se mettre à l'abri et d'être protégée le plus possible en espérant un avenir meilleur. Mais son raisonnement ne va pas plus loin que ça, et je trouvais que ça correspondait bien à la réalité du moment.
C'est difficile de prendre du recul quand, pour l'instant, je veux juste savoir si je peux rentrer chez moi. Vous savez, je ne veux pas que qui que ce soit meure. Je ne veux pas que les gens vivent ça. C'est vraiment déchirant d'être ici. Et Dieu merci, personne n'a été blessé. Mais je crois que pour l'instant, c'est juste très difficile à gérer. Alors là, mon cerveau essaie juste de comprendre ce qui va se passer ce soir.
Eux ont la chance d'avoir des abris. Ça, c'est important de le dire aussi. Ils ont la chance de pouvoir se protéger. Ils ont la chance de pouvoir avoir des alarmes quelque part. Ces alarmes sont stridentes, sont horribles au quotidien, mais c'est salvateur. C'est-à-dire, sans ça, Tel Aviv ou les villes israéliennes visées par des missiles iraniens seraient sans doute beaucoup plus victimes de dégâts considérables. Il n'empêche que ces abris et ces alarmes dans le ciel, c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'éviter des catastrophes, d'éviter des centaines de morts, d'éviter de se réfugier, d'évacuer de son domicile et de migrer vers le sud ou vers le nord du pays, comme ce qui se passe à Beyrouth.
Alors non, ici au Liban, il n'y a pas d'abri comme ça peut être le cas en Israël. C'est vraiment pas, j'ai jamais entendu une sirène dans la rue, il n'y a pas un abri. Par exemple, souvent au sous-sol des hôtels en Israël, moi pour y avoir été, je sais qu'au sous-sol de l'hôtel où je séjournais, il y avait l'abri où je pouvais me réfugier en cas de menace. Ici au Liban, pas du tout. Alors généralement, depuis le début du conflit, il y a beaucoup de l'armée israélienne prévient quand elle va frapper. Souvent indique parfois des quartiers extrêmement précis, voire cible carrément des immeubles en disant évacuer la zone autour de cet immeuble précisément. Donc ça arrive extrêmement régulièrement avant des frappes. C'est encore le cas là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Il y a quelques heures, ils ont averti la population qu'il fallait évacuer certains quartiers de cette banlieue sud. Et ils viennent de frapper. En revanche, il y a des moments aussi où ils ne préviennent pas. C'est arrivé, par exemple, ici à Beyrouth, il y a eu 2 hôtels notamment qui ont été visés, mais très précisément sur des chambres précises, avec en pleine nuit. Il y a eu 2 fois, je pense à ces 2 fois-là, notamment un hôtel où on est allé le lendemain matin avec Benjamin, et effectivement ils avaient ciblé une chambre du 4e étage d'un hôtel qui était dans un quartier du bord de mer de Beyrouth, qui n'avait pas du tout été ciblé ou averti. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment une attaque, enfin en tout cas c'est vraiment une frappe qui vise quelqu'un généralement. Et effectivement, ils visaient des gardiens de la Révolution, ils l'ont indiqué après, et c'est pour ça qu'ils ont visé là. C'est une fois là-bas qu'il y a eu de plus en plus d'ordres d'évacuation qui émanent de l'armée israélienne, qui a appelé petit à petit des quartiers à évacuer, puis toute une zone du sud du Liban qui est immense, qui est vraiment une zone qui est toute la zone sud du fleuve Litani. Puis après, ils ont appelé à évacuer des quartiers entiers de cette banlieue sud de Beyrouth, ce qui est un ordre d'évacuation inédit. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'ampleur, en tout cas, de ce qui va se passer pour ce qui est des réfugiés, de l'ampleur de la crise humanitaire qui peut découler de ce conflit. Et donc forcément, à ce moment-là, on se dit, leur parole, elle va être cruciale, comme la parole des blessés ou de leurs familles ou des familles de victimes va être cruciale, comme de documenter ce qui est en train de se passer est crucial. Il y a beaucoup d'aspects ici à Beyrouth qui sont importants à montrer et qui font partie de notre travail.
Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on raconte une guerre qui se passe en Iran alors qu'on ne peut pas envoyer de journalistes en Iran? Il y a Siavash Ghazi qui est correspondant pour RFI France 24, qui fait des duplex régulièrement pour BFM TV. Mais nous, on ne peut pas envoyer de journalistes dans ce pays ?
Bah, on se base sur les dépêches d'agence. Hein,
Olivier Prédhomme, chef du service reportage et rédacteur en chef des opérations spéciales.
Des agences iraniennes, en essayant de confirmer au mieux l'information, le plus possible, les agences internationales AP, Reuters, AFP, qui sont voilà, les trois principales agences avec lesquelles on travaille. On cherche aussi des infos sur les réseaux sociaux via les organismes officiels, l'armée iranienne, les politiques iraniens qui tweetent beaucoup, hein, mine de rien. Ils parlent beaucoup de ce qui se passe quand même sur leur territoire. Et tout ça, nous, après, en prenant quand même des pincettes sur la manière dont on le dit, dont on le raconte, en sourçant, bien entendu, d'où vient l'information, parce que une information iranienne n'est pas obligatoirement la vraie, la bonne. Donc, on source toujours nos informations. Et après, les quelques journalistes internationaux qui sont sur place, Chiavoch en fait partie. On sait que quand Chiavoch nous dit quelque chose, l'info elle est vérifiée, elle est béton et on peut la donner sans aucune difficulté. Mais c'est vrai pour l'Iran, mais c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour n'importe quel pays, c'est vrai pour les États-Unis. Il faut toujours réussir à prendre du recul sur l'information qu'on nous donne, parce qu'on sait très bien que dans ce genre de situation, il y a une manipulation de l'information qui est faite. Et donc, il faut vérifier nos informations et surtout savoir de quelle source elle émane pour pouvoir la mettre en perspective et la relativiser s'il y a besoin qu'elle le soit. Beyrouth, c'est très grand. Hein, donc, ce qui se passe dans le sud de Beyrouth, ben, on l'a pas obligatoirement vu. Au mieux, on a vu un panache de fumée et on a vu une bombe tomber, mais on pourra juste dire, oui, j'ai vu une bombe tomber, de qui elle émane, d'où elle vient, elle frappait qui, enfin voilà, là, il est là le travail du journaliste, c'est de savoir, de comprendre qui a frappé, pourquoi, dans quel but, ça a frappé quel objectif, quelle cible était la frappe, sur quelle cible était la frappe, et ça c'est tout le travail du journaliste sur place, en fonction des réseaux qu'il a pu avoir sur place, des journalistes locaux qui sont connus et reconnus, les agences de presse, les organismes gouvernementaux, tout ça font partie des sources d'informations qu'on recueille sur ce genre de terrain-là, tout en gardant toujours ce recul de dire voilà, d'où vient l'information qu'on nous donne, parce qu'on sait très bien, encore une fois, que dans ce genre de situation, l'information peut être manipulée ou en tout cas orientée, et c'est là-dessus qu'il faut réussir, nous, à prendre un certain recul. Là, les équipes, ça fait environ entre 10 et 15 jours qu'ils sont déjà dans les différents pays. Donc, déjà, ils sont crevés. Hein. Enfin, je veux dire, au bout de 10 jours, 15 jours de conflit, nos équipes sont fatiguées physiquement, moralement. C'est très fatigant. Le rythme d'une chaîne d'information est quand même assez soutenu parce qu'on prend l'antenne en gros de 5 heures jusqu'à 1 heure tous les jours. Donc, alors ça va, on a deux équipes par pays plus ou moins qu'on couvre. Donc c'est vrai que voilà, il faut aussi penser à ce que les équipes se reposent, donc on va les relever et donc on reprend le même process. Et est-ce que vous avez envie d'aller? Si oui, on va vous former et ensuite on commence à réfléchir sur comment y aller, parce que pareil, hein, les difficultés sont pas obligatoirement les mêmes qu'au premier jour de la guerre, mais c'est quand même pas aujourd'hui pas si simple de rentrer dans certains pays, et donc il faut qu'on trouve nous des solutions, combien de temps ça va prendre pour aller aux Émirats Arabes Unis ou pour aller au Qatar, c'est quasiment 48 heures, voire 3 jours de voyage, ne serait-ce que pour arriver sur place. Et après, il faut pouvoir travailler sur place, avoir les autorisations, prendre contact avec les autorités locales. Enfin voilà, c'est pas toujours simple. Et ensuite, rapatrier, enfin dire à nos premières équipes de rentrer, qui sont les civils, qui ont besoin de se reposer un peu avant potentiellement de repartir dans une semaine, deux semaines, parce que la guerre va pas s'arrêter là et on va continuer à couvrir le conflit.
Et nous continuerons de raconter le travail des journalistes et cette guerre dans ce podcast, le service reportage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur le site, l'application et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.